C'est Jordan Bardella qui est avec nous, le président du Rassemblement National. Bonjour, bonjour. Jordan Bardella. On va revenir à Alençon, dans l'Orne. Théâtre de violences urbaines, d'affrontements, de destruction de biens, biens publics ou des voitures qui appartiennent aux habitants. Tout ça parce que il y a eu des interpellations dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Marine Le Pen, pardon ? Oui, deux interpellations.
Donc zéro.
Un jeune de 16 ans.
Bah. Ils ont été relâchés ou pas encore ?
Pas encore. Enfin,
d'accord. Ça serait tardé
pas encore,
alors,
d'après,
avis,
d'après ce qu'on sait
faire de
pour le moment. Ils sont encore aux mains de la police. Donc Marine Le Pen s'est rendue sur place pour rencontrer des policiers, rencontrer les habitants. Et Gérald Darmanin réagissait hier sur BFM TV aux propositions à ce qu'a dit Marine Le Pen. On va écouter Gérald Darmanin.
Madame Le Pen ne connaît pas ces dossiers. Voilà. Et que Madame Le Pen, elle considère aujourd'hui que comme l'élection présidentielle arrive et qu'elle est dans la course à l'échalote, à l'extrême droite, avec M. Zemmour, qu'elle peut se permettre de dire, encore une fois, n'importe quoi. En faisant ce genre de déplacement, en faisant ce genre de déclaration, c'est non seulement une insulte aux policiers et aux gendarmes qui risquent leur vie tous les jours, mais c'est en plus empêcher les opérations de police. C'est particulièrement irresponsable.
Votre réaction, Jordan Bardella ?
Je vous dis, je pense qu'il meuble une question à laquelle il avait probablement pas la réponse. C'est la boîte élément de langage automatique où à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est jamais de leur faute. Donc le pays est à feu et à sang depuis 5 ans. Il y a des émeutes en banlieue tous les jours. Il y a encore eu des émeutes hier à Béziers. Les policiers ont été... On a tiré sur des policiers à balles réelles il y a quelques jours à la Duchère, à Lyon, dans le département du Rhône. À Alençon, les voitures sont brûlées. Les policiers tombent dans des guet-apens, mais c'est pas de leur faute. Donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose, le gouvernement se déplace, fait des constats.
Bah, il dit pas que
Monsieur
c'est
Darmanin,
pas de sa faute. Hein.
Il dit
au contraire, c'est parce qu'on agit et qu'on démantèle. Le trafic de drogue, qu'on va à l'affrontement.
Non, mais ça, c'est bidon. Allez demander aux policiers. Les policiers nous disent aujourd'hui, lorsque nous rentrons dans des quartiers, les quartiers sont aux mains des trafiquants de drogue. Et les trafiquants de drogue disent, on est chez nous. Et ils disent, on est chez nous parce qu'ils considèrent que ce n'est plus la France, que c'est un autre droit que celui de la République française qui s'applique. Donc, il va falloir rentrer dans ces quartiers. Il va falloir neutraliser les chefs de gang.
On y rentre comment ?
Xavier Hofer, qui est un grand criminologue français, expliquait l'autre jour dans un média qu'il y a 5000 chefs de gang qui sont identifiés par les services de renseignement. C'est ce qu'on appelle les grands frères qui sont aujourd'hui les maîtres dans ces quartiers et qui font aujourd'hui régner la loi.
Donc il faut
les rentrer dans ces quartiers. Il faut les mettre hors d'état de nuire et il faut surtout un tour de vis en matière pénale. Parce que j'ironisais tout à l'heure lorsque vous m'avez posé la première question, mais les policiers nous disent quoi ? Nous disent que quand ils font leur travail, quand ils démantèlent des réseaux, quand ils mettent hors d'état de nuire des trafiquants de drogue, bien souvent ils ne risquent rien parce que bien souvent ils sont mineurs, que s'applique aujourd'hui une protection quasi systématique pour les mineurs. C'est la fameuse ordonnance de 45 qui fait que quand vous êtes mineur, et c'est la raison pour laquelle les grands frères s'appuient sur des mineurs, c'est parce qu'ils ne risquent rien. Et quand ils arrêtent les grands trafiquants de drogue, eh bien, c'est parfois des mois et des mois d'enquête qui sont sanctionnés par quasiment rien. Aujourd'hui, pour faire de la prison, il faut y aller dans notre pays.
Vous me citiez le criminologue Xavier Hofer, vous dites qu'il a identifié, combien vous avez dit ?
Il y a 5000 chefs de gang.
Mais ça veut dire que le ministère de l'Intérieur les connaît, mais qu'on ne veut pas les arrêter.
On sait qu'il y a 2%.
On ne veut pas les arrêter.
2% des villes françaises sont des villes qui sont considérées comme des zones de reconquête républicaine. Donc, on peut agir, on doit agir. Mais les gens qui sont au pouvoir depuis 40 ans dans notre pays, ils ont fermé les yeux. Ils achètent la paix sociale. Ils ont déversé des milliards et des milliards d'euros dans ces quartiers. Donc, je les connais, ces quartiers, j'en viens. Moi, j'ai grandi dans une cité à Saint-Denis. Aujourd'hui, lorsque vous rentrez, c'est la cité Gabriel Péri, vous avez des trafiquants d'oeil qui regardent qui sont les gens qui rentrent. Il y a même des parkings devant lesquels on a des checkpoints où, en vérité, vous devez vous présenter à l'autorité locale qui sont les trafiquants de drogue. Sauf qu'il y a une réalité, c'est que les gens qui habitent là, dont une grande partie sont issus de l'immigration, subissent aussi cette délinquance. Ils subissent aussi la loi des dealers, la loi des caïds. Donc il va falloir effectivement nettoyer ces quartiers, envoyer nos forces de l'ordre et faire un tour de vis en matière pénale. Moi, j'entendais ce chiffre qui a été donné par Mathieu Vallet, un syndicaliste, commissaire syndicaliste, qui passe souvent sur votre antenne, qui disait que 5% des récidivistes commettent 55% des crimes et des délits. Et puis, il y a un autre volet aussi, qui est le volet de l'immigration. Parce que la quasi-totalité, derrière la quasi-totalité des faits de délinquance de rue dans notre pays, sont liés à l'immigration, sont liés directement à l'immigration.
Mais dans ça les veut dire quoi directement à l'immigration ?
Ça veut dire que derrière la totalité des faits de délinquance de rue, il y a l'immigration.
Oui, mais ça veut dire quoi ? Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont issus de l'immigration, mais qui sont français, qui sont nés dans le pays.
Ça veut dire, par exemple, dans les transports en commun d'Île-de-France, c'est les chiffres qui sont donnés par le ministère de l'Intérieur, 90% des vols qui sont commis, 93% précisément, sont le fait d'étrangers. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Intérieur. Enfin, pour être étranger, il n'y a pas de statistiques ethniques. 93% des vols sont le fait d'étrangers, c'est les chiffres
qui sont en situation irrégulière.
63% qui sont étrangers. 63% qui n'ont pas la nationalité française. Qui n'ont pas la nationalité française. Et pour le reste, effectivement, une grande partie de la violence qu'on subit dans notre pays est liée à l'immigration. Enfin, allez vous balader dans n'importe quel commissariat, allez parler avec n'importe quel policier, allez vous balader dans n'importe quel palais de justice. 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet de Paris sont des mineurs étrangers. Donc, on voit bien que l'immigration aujourd'hui est une des...
On règle le problème de l'immigration, on règle le problème de la délinquance.
Ah bah, à partir du moment où 93% des vols dans les transports d'Île-de-France sont commis par des étrangers, à partir du moment où on arrête l'immigration, où on expulse les clandestins, et surtout on expulse les délinquants, les criminels étrangers,
ces voleurs qui sont dans les transports publics en Île-de-France, on les arrête et on les expulse.
Tout à fait.
Ils sont tous expulsables. Ils sont tous en situation irrégulière, ils sont tous expulsables.
Non, je veux un exemple. Ma collègue parlementaire des Républicains, que j'apprécie par ailleurs, Nadine Morano, s'est fait voler son portable il y a quelques jours. On viendra d'apprendre hier soir par l'intermédiaire de vos confrères de Valeurs Actuelles que le type qui lui a volé son portable est un Palestinien en situation irrégulière qui faisait qui était visé par une obligation de quitter le territoire français. Or, c'est le grand échec du gouvernement. Emmanuel Macron, pendant sa campagne présidentielle, avait dit avec moi 100% des obligations de quitter le territoire français sont exécutées. C'est seulement 12%. Et ça, c'est le bilan dramatique, le laisser-faire, le laisser-aller du gouvernement de M. Darmanin et d'Emmanuel Macron. Donc la vérité, c'est que si on arrête l'immigration, on réglera une grande partie de la problématique de la violence et notamment de la violence de rue dans notre société.
Juste question, Étienne Nibi.
C'était juste, notamment dans les vols, dans les transports en commun, beaucoup de ces enfants, dont vous parlez, sont européens.
Je ne crois pas du tout.
Sont européens. Je vous le dis, puisque
ils viennent d'Europe de l'Est.
Ils viennent de l'Europe de l'Est, en particulier sur les vols dans les transports en commun, puisque vous parlez de cela. Et donc c'est un peu plus compliqué les expulsions, parce que quand on parle d'immigration, il faut dire qu'il n'y a pas qu'une immigration qui vient du sud, qui vient du sud. Il y a une très forte immigration qui est venue des pays de l'Est. Il y a aujourd'hui une très forte immigration qui vient notamment du Sri Lanka et une très forte immigration qui vient aussi de Chine. Donc il y a une multitude d'immigrations.
Alors comment on l'arrête? Les touristes chinois qui viennent, c'est plutôt eux qui sont dépouillés. Là, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils viennent plus d'ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'ils viennent, ils sont dépouillés.
Mais alors comment on l'arrête? Parce que comment on l'arrête concrètement?
On arrête l'immigration.
Mais comment on l'arrête?
D'abord, en rétablissant des frontières. Vous avez raison de souligner, il y a tout un...
La France
est devenue un hall de gare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous rentrez, vous arrivez avec vos bagages, votre folklore, votre langue, vos coutumes, vos us, vos modes de vie. Que vous soyez en situation de bénéficier, notamment par exemple, de l'asile ou non, vous restez sur le territoire national. Il y a 130 000 demandes d'asile qui ont été faites l'an dernier. Il y a 2 ans sur le territoire national, l'an dernier c'était un peu biaisé avec le Covid, 2/3 ne répondent pas aux critères de l'asile et restent sur le territoire national. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est organiser le traitement de l'asile comme vient de le faire le Danemark, qui est pourquoi un gouvernement socialiste depuis les pays de départ. 0 demande d'asile traitée depuis le territoire national, uniquement dans les ambassades et les consulats étrangers. Il faut arrêter de délivrer des visas. Il faut arrêter de délivrer des visas à des pays comme l'Algérie, qui refusent, dans le cas inverse, de reprendre leurs indésirables, c'est-à-dire de reprendre les délinquants et criminels étrangers, ils acceptent de nous les envoyer, mais ils refusent de les reprendre.
Justement, quand ils refusent de reprendre,
2%.
Quand ils refusent justement de reprendre les indésirables, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Eh bien, il faut faire ce qu'on appelle une pression diplomatique. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de délivrer les visas.
Ben, c'est ce que fait le gouvernement.
C'est pas ça la question.
Ils ont diminué de 50%.
On arrête de délivrer
les visas. On coupe les transferts de fonds.
Oui,
qui représente parfois.
Mais que fait-on des personnes?
Mais ça ne change rien.
Le
fait qu'il est là, il bouge pas.
Mais que fait-on des personnes qu'on a arrêtées?
Écoutez, si vous dites au gouvernement algérien que s'ils ne souhaitent pas reprendre leurs indésirables, c'est-à-dire leurs délinquants et criminels étrangers, que vous les menacez de couper les aides au développement, c'est-à-dire l'argent que donne la France pour aider un certain nombre de ces pays à se développer, que vous coupez les demandes que vous coupez les visas et que vous coupez les transferts de fonds, je peux vous dire que en un quart d'heure ils sont dans l'avion et ils sont attendus à l'aéroport.
Alors on continue la discussion dans un instant avec vous, Jordan Bardella, reprise question de Stella Kamga, de Thomas Porcher, de Fred Hermel, bien sûr, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC, midi, une nouvelle heure commence.
Professionnel, vous êtes à la recherche d'un local commercial, d'un fonds de commerce, d'entrepôt ou de bureau? Rendez-vous sur Se Loger Bureau et Commerce, numéro 1 de l'immobilier professionnel.
RMC,
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. On était sur cette question du retour des indésirables, comme vous le disiez, Jordan Bardella. Et on finit ta question, Stella Kamga.
Oui. Moi, je disais, admettons que effectivement, dans le pur des hasards, hein, l'Algérie accepte qu'on coupe les visas, qu'on coupe le robinet, qu'on coupe tout. Et donc, ils ne reprennent pas les indésirables. Mon problème, c'est le stock en fait de personnes. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que
le nombre de personnes,
je suis obligée de dire le stock pour le coup, parce que c'est des personnes qui vont rester sur place, appeler les indésirables. Comment on les renvoie? Je termine là-dessus. J'ai vu une presse qui disait, par exemple, que le marché halal représentait à peu près 5,8 milliards d'euros et qui représentait un potentiel économique pour les entreprises. Donc, j'entends bien hein, tout ça. J'ai rien contre. Mon problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont là pour le coup, qui participent d'une certaine manière à l'économie, et donc à ce moment donné-là. Si on ne peut pas les renvoyer...
Jordan Bardella répond, je vous arrête, mais les délinquants et criminels étrangers, en tout cas, en l'occurrence algériens, ils ne contribuent pas à l'économie française.
Non, quand je dis contribuer, c'est pas travailler, non, je dis consommer.
Plutôt de manière négative. Moi, je ne conçois pas que la France soit ad vitam aeternam l'otage de l'Algérie. L'otage de la diaspora algérienne en France. Et la vérité, c'est que la France n'a jamais été autant soumise que sous le gouvernement d'Emmanuel Macron à l'égard de l'Algérie. Je vous rappelle que pendant sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait, pour faire plaisir probablement aux Français d'origine algérienne sur notre territoire et au gouvernement algérien, expliqué que la colonisation avait été un crime contre l'humanité, qu'il a envoyé il y a quelques mois son ministre de l'Intérieur se prosterner devant le FLN et rendre hommage là-bas sciemment au FLN en marge d'un déplacement diplomatique, c'est-à-dire à une organisation terroriste qui a commis des exactions et qui a commis des attentats contre la France. Donc, stop. Maintenant, on arrête de se prosterner devant le monde entier. La France doit être respectée à l'extérieur. Et l'un des moyens d'être respectée à l'extérieur, c'est de se faire respecter, y compris de l'Algérie, en renvoyant les délinquants et criminels étrangers. Et croyez-moi qu'en menaçant de couper les transferts de fonds, qu'en menaçant de couper l'aide en développement et qu'en menaçant de couper définitivement, sur la durée, les visas, en quelques minutes, leurs indésirables seront repris.
Question. Jordan Bardella, j'ai entendu Marine Le Pen dire que là le Rassemblement National était prêt à gouverner. Vous êtes prêt à gouverner, vous n'êtes plus dans l'incantation comme Zemmour, hein, je pense qu'elle faisait référence à ça. Donc je vous ai entendu sur cette chaîne proposer une mesure intéressante, notamment pour les prix des carburants. Vous voulez baisser la TVA de 20% à 5%, ce qui ferait économiser 10 euros sur un plein. J'aimerais savoir quelle est la perte budgétaire, si vous l'avez chiffré.
12 milliards.
Alors 12 milliards, vous la compensez par quoi? Par quelle hausse d'impôts ou par quelle coupe ailleurs?
En coupant, par exemple, les prestations sociales qui sont versées aux étrangers dans notre pays. Parce que je pense que la solidarité, elle doit rester nationale. L'ensemble des prestations sociales aux étrangers dans notre pays, nous l'avons chiffré, c'est au bas mot 16 milliards d'euros. Et moi, je ne conçois pas qu'on continue d'être généreux avec la terre entière quand nous avons un Français sur quatre qui dit ne plus arriver à boucler ses factures de gaz ou d'électricité. Quand il y a eu l'an dernier dans notre pays, l'hiver dernier, un Français sur cinq qui dit avoir souffert du froid. Donc je crois que nous devons faire tous les efforts, quoi qu'il en coûte, nécessaires pour permettre aux Français de récupérer du pouvoir d'achat. Marine Le Pen a indiqué que si elle était élue présidente de la République, elle mettrait en œuvre dès les premières semaines un certain nombre de mesures pour rendre 200 euros de pouvoir d'achat par mois. Et l'une des mesures qu'elle prendra notamment est d'abaisser la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble des produits énergétiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a des millions de Français, des millions de nos concitoyens, et notamment ceux qui se chauffent au gaz, qui se demandent comment est-ce qu'ils vont réussir à boucler les factures cet hiver. Il y a 9 millions de Français, je le disais, qui se chauffent au gaz. Le gaz, c'est 57% d'augmentation, imputable également au gouvernement. Imputable également au gouvernement, parce qu'à partir du moment où sur un produit comme l'essence, il y a 60% de taxes, moi je ne conçois pas qu'on laisse des millions de Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler dans la détresse, et notamment dans la détresse sociale.
Question Fred Hermel.
Jordan Bardella, comment chez vous, au Rassemblement National, on est passé, notamment dans la bouche de Marine Le Pen, de Éric, avec Éric nous avons des valeurs communes, à Zemmour le méchant?
C'est un peu
caricatural. En une semaine.
Non, mais c'est un peu caricatural.
C'est un petit peu. Oh, bah, excusez-moi. Il y a,
on
je
a
crois,
plus le temps.
Six jours entre non, le mais Éric je
vais
et
vous la faire courte. Non, mais je vais vous la faire courte. On a des points d'accord avec Éric Zemmour dans la mesure où il dit sur l'immigration ce qu'on dit depuis 40 ans. Ce qu'on dit simplement, c'est que une élection présidentielle, on n'est pas là pour se faire plaisir, on n'est pas là pour vendre des bouquins et on n'est surtout pas là pour nourrir les Français de constats. Les Français, on est là pour les rassembler et pour leur apporter des solutions.
Éric Zemmour, il se fait plaisir.
Quand on est à 6 mois d'une élection présidentielle, dont on considère qu'elle est un choix de civilisation, on n'est pas là en train de se dire peut-être que je serai candidat, peut-être que je serai pas candidat.
Mais vous savez très bien qui va être candidat.
Je vais attendre de voir et je choisirai mon moment. Marine Le Pen, elle est candidate à l'élection présidentielle, il y a aucun doute là-dessus. Et je crois que personne, aucun Français, ne peut douter de sa volonté et notamment de sa volonté politique à arrêter l'immigration, d'accord, à rétablir l'ordre et à redonner du pouvoir d'achat aux Français, parce que elle est là pour servir la France et les Français, pas pour servir
mais
son intérêt.
Du coup, Pour compléter la question de Fred, c'est un adversaire Éric Zemmour ou pas?
C'est au mieux un concurrent. Mais je dis aux médias, ne faites pas l'élection avant l'élection.
Vous aviez choisi un poulain en 2017
qui était Macron. Vous avez aujourd'hui choisi un poulain qui était Éric Zemmour, matin, midi et soir. On a le droit à tout. Zemmour à la plage, Zemmour au stand de tir, Zemmour à la boucherie, Zemmour.
C'est un concurrent.
Stop.
Donc le moment où il sera candidat officiel. Non mais quand il sera candidat officiel, il deviendra un concurrent, donc
par définition, il sera un concurrent.
D'accord.
Mais moi, mon adversaire, c'est pas Éric Zemmour. Notre adversaire, c'est Emmanuel Macron. Ouais. Et ce qui est suspect, si vous voulez, c'est que Éric Zemmour, avec qui on peut avoir encore une fois, par ailleurs, des points d'accord, dans la mesure où sur l'immigration, ils disent ce qu'on dit depuis 40 ans.
Et les points de désaccord, c'est quoi alors?
Passe plus de temps à taper sur Marine Le Pen, qui pour le coup n'a aucune responsabilité dans la situation du pays.
Il dit qu'elle est de gauche. Elle est de gauche, Marine Macron. Le Pen.
Il est de gauche. Moi, je vais rappeler que en 2002, Éric Zemmour, il a voté pour Chevènement. En 81 et en 88, il a voté pour Mitterrand. Nous, ça fait 40 ans qu'on se bat contre l'immigration. Et pendant qu'il votait Mitterrand en 88, Marine Le Pen, elle était déjà en train de coller des affiches contre l'immigration et de se battre contre ce qui apparaît aujourd'hui comme une unanimité dans la classe
donc
politique.
Donc c'est un opportuniste.
Je dis pas cela, mais il défend ses idées.
Vous dites
il défend
ses convictions. Vous dites pas cela parce que éventuellement au deuxième tour, si Marine Le Pen arrivait en tête, vous auriez besoin des voix des gens qui vont voter pour Zemmour. Donc vous êtes obligé de garder une certaine prudence par rapport à.
Mais on aura besoin de tout le monde. Et il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas voir Emmanuel Macron réélu parce qu'ils savent que si Emmanuel Macron réélu, cela sera un nouveau quinquennat de désordre, de chaos sécuritaire, de chaos social, de saignée fiscale, de casse sociale et de mépris à l'égard des Français. C'est pour ça que quand j'entends moi certaines phrases méprisantes, certaines attaques un peu méprisantes d'Éric Zemmour à Emmanuel Macron, à Marine Le Pen, je dis que ça rappelle le mépris d'Emmanuel Macron et je pense que le pays n'a pas besoin de cela. Mais les Français, il faut les rassembler et je pense que Marine Le Pen est aujourd'hui prête, qu'elle est aujourd'hui en capacité de rassembler une majorité de Français et même si j'ai toute réserve sur les sondages, parce qu'on est amené à commenter des sondages sur lesquels, encore une fois, on a vu que les sondages se sont complètement plantés aux élections régionales, qui se sont complètement plantés aux élections européennes quand ils ont mis la liste des Républicains à 15, donc je suis prudent avec les sondages, mais elle est aujourd'hui celle qui est en capacité de battre Emmanuel Macron et elle est aujourd'hui en capacité de le faire et je crois que nous réussirons à le faire parce que je pense que les idées qu'on défend sont majoritaires dans le pays.
Merci d'être Merci passé par la table des GG, Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Lundi 9h, vous avez rendez-vous dans les grandes gueules avec le chef d'entreprise Mehdi Guézard, l'avocat Charles Consigny, Joël Dagosséry, coach de vie, à 11h dans les grandes gueules. Notre confrère de l'Obs, Vincent Jauvert, qui sort un livre, s'appelle La Mafia d'État. La Mafia d'État, c'est une caste, elle s'appelle les hauts fonctionnaires. Et il a décrypté, Vincent Jauvert, tout le système. Et il viendra en parler avec les grandes gueules lundi, donc avec le retour d'Olivier Truchot. Fred Hermel sera là, bien sûr, pour C'est ça la France. Tout de suite, le débat continue sur RMC, RMC Story.